France Bleu 107.1. On est bien ensemble. Roue libre, le Mag Vélo sur France Bleu 107.1.
C'est un nouveau samedi midi que nous partageons en selle sur France Bleu 107.1 avec le Mag Vélo pour tous, tous les jours. À mes côtés, Abel Guggenheim, membre du comité directeur de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Bonjour Abel.
Bonjour Mickaël.
Toujours à vélo ?
Ah bah évidemment, oui.
Je sais pas, mais t'as dit un jour je vous poserai la question.
En plus aujourd'hui il fait très beau, c'est très agréable.
Ah ça c'est le temps parfait pour faire du vélo. Le problème c'est quand on est parti tôt ce matin, on est parti très couvert et que là il va faire chaud pour rentrer, mais c'est pas grave. Ensemble ce midi dans Roue Libre, nous allons plus que jamais porter un regard sur la place du vélo en ville. Nous nous intéresserons également à un vélo loisir avec l'organisation de la deuxième édition du Paris Bike and Run, de la course et du vélo pour le fun, nous promettons. C'est exactement ça d'ailleurs l'esprit de Roue Libre jusqu'à midi et demi, tous les week-ends. Je vous le disais donc, le vélo aujourd'hui, plus que jamais au cœur de la ville, une ville qui ralentit, qui se métamorphose, elle passe à 30 km/h, abrite de nouvelles façons de circuler, de nouveaux panneaux, une ville qui change autour de la mobilité, autour du vélo. Bonjour Sylvanie Godillon.
Bonjour Mickaël.
Bienvenue sur France Bleu 107.1 à Paris. Vous êtes chargée d'études et de recherche chez Cité, bureau de recherche, 6 comme le chiffre T.fr pour en savoir plus. En quoi consiste votre métier ?
Alors, nous étudions beaucoup les nouvelles mobilités et aussi les anciens modes de transport comme le vélo, mais qui ont une nouvelle place dans les territoires, notamment en ville. On a mené une recherche en collaboration avec la ville de Paris sur la généralisation du 30 km/h en ville. Et dans ce cadre, on a pu mieux comprendre la place du vélo en revenant sur l'historique de la place du vélo en ville depuis les années 90.
Alors justement, quel regard portez-vous sur le vélo en ville aujourd'hui ?
Alors on peut constater deux grands changements. Les zones 30 ont été instituées en 1990 et depuis 25 ans, on voit qu'il y a de plus en plus de mesures visant à ralentir les vitesses. Donc ça, c'est un premier constat. Mmh. Et puis un deuxième constat, c'est l'apparition de nouveaux modes de transport comme par exemple le Vélib. Donc le vélo, certes, existe depuis...
Depuis
très longtemps. Mais le Vélib, le vélo en libre service, le fait de partager un même véhicule par des usagers différents, ça c'est vraiment nouveau. Et depuis l'instauration des Vélib à Paris et puis dans d'autres communes, on voit qu'il y a vraiment un renouveau des usages du vélo en ville.
Mais alors du coup, est-ce que c'est la ville qui s'adapte au vélo ou le vélo qui doit ou s'adapte à la ville ? Ou doit s'adapter à la ville ?
C'est un peu des deux, mais on voit vraiment qu'il y a une tendance de la ville à s'adapter au vélo. Donc je vous parlais, en 1990, il y a l'instauration des zones 30.
J'ai l'impression que ça date pas d'hier, en fait. On nous en parle aujourd'hui, mais c'est vieux.
Alors, ce qui a changé là récemment, c'est... il y a plusieurs séries de dates depuis 6-7 ans. En 2008, vous avez la législation qui évolue et qui impose qui propose le double sens cyclable dans les zones 30. Donc, c'est-à-dire que dans les zones 30, les vélos peuvent aller à double sens ou à contre-sens quand on est contre la mesure. L'idée, c'est de favoriser la réduction des vitesses. En effet, quand vous êtes automobiliste et que vous voyez face à vous un vélo qui arrive, vous avez tendance à ralentir pour ne pas...
Donc c'est sécurisant pour les deux usagers.
C'est sécurisant pour les deux usagers. Et l'effet, c'est vraiment un ralentissement des vitesses. Et les constats, notamment de la ville de Paris, le constat a été qu'il n'y avait pas forcément plus d'accidents. Au contraire, les vitesses ralentissent et c'est meilleur pour la sécurité routière. Et puis, ça c'est en 2008. En 2012, vous avez... l'instauration d'une nouvelle réglementation vous en avez peut-être vu déjà, Mickaël, en faisant du vélo, des petits vélos jaunes qui permettent de tourner à droite ou d'aller tout droit, même si le feu est rouge. Donc ça date de 2012. À noter, Nantes ou Strasbourg avaient déjà anticipé sur la loi, puis avaient déjà fait des tests, et les tests étaient plutôt positifs. Quand vous êtes automobiliste, vous avez aussi parfois des petites flèches qui permettent d'aller à droite, même quand le feu est rouge, donc ça ne fait que reprendre une mesure qui existait déjà. Donc ces deux mesures, le fait de pouvoir aller à double sens dans les zones 30 et puis le fait de pouvoir tourner à droite ou d'aller tout droit, ça permet vraiment d'améliorer la fluidité de la circulation pour les vélos, pour les cyclistes. Et du coup, pour les usagers, c'est plus simple et ça permet aussi peut-être d'attirer de nouveaux usagers.
Du coup, quel est l'intérêt de ces zones 30 ? Abaisser la vitesse ? Augmenter la sécurité ?
C'est surtout d'augmenter la sécurité. Et le fait de pouvoir circuler à double sens, ça permet d'augmenter les itinéraires possibles pour les cyclistes. Quand vous êtes automobiliste, vous pouvez pas aller partout parce que vous avez des rues à sens unique. Quand vous êtes cycliste, le fait de pouvoir les emprunter, ça permet d'aller plus vite d'un point A à un point B et puis de multiplier les itinéraires possibles.
Que répondre aux automobilistes qui se disent maintenant on n'avance plus dans Paris parce qu'on roule à 30 ?
Alors déjà, on roule pas à 30 partout dans Paris. La tendance est d'avoir un peu plus de zone 30, mais on n'est pas encore à un Paris à 30 km/h.
On atteint vraiment souvent les 30 km/h
dans
Paris ?
Non, c'est rare de pouvoir circuler. Quand on est automobiliste à Paris, c'est rare de pouvoir circuler à des vitesses élevées, mais
Déjà pas plus de 50.
Pas plus de 50
en ville quand même.
Mais voilà, sur un certain nombre de grands axes, il est quand même possible de rouler à une certaine vitesse. Et puis dans la série de lois, il y a en 2015 la loi sur la transition énergétique qui permet aux maires de grandes villes, de maires de n'importe quelle ville, de généraliser la limitation à 30 km/h sur leur territoire. Et l'agglomération de Grenoble a instauré cette généralisation du 30 km/h à l'échelle de son territoire, donc c'est une première. Mais à Paris, on n'en est pas encore là. Il y a à peine 30% des voies qui sont limitées à 30 km/h à Paris.
Donc aux autres,
Peut-être, on verra.
Je crois que ça fait partie des volontés cachées
politique.
Peut-être un peu de Paris aussi, de généraliser ces zones 30, de généraliser les tournes à droite vélo, donner plus de place à la lenteur, j'ai envie de dire, ou plutôt à la mobilité douce à Belle-Guggenheim.
Oui, c'est pas une volonté cachée, c'est une volonté qui est clairement affirmée et qui est absolument indispensable. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'on soit obligé de passer par des réglementations pour imposer une baisse de la vitesse qui devrait être naturelle. Mais on remarque que la plupart des véhicules motorisés ont pris l'habitude de rouler à la vitesse maximale qui est possible physiquement. C'est aussi pour ça qu'on est obligé de mettre des obstacles physiques, des gendarmes couchés, tout ça, qui sont gênants pour tout le monde d'ailleurs. Parce que simplement, les automobilistes et les motards ont pris l'habitude de rouler à la vitesse maximale possible. Donc petit à petit, il faut, malheureusement par des mesures contraignantes, faire en sorte que les vitesses baissent.
Sylvanie Godillon.
Oui, si c'est une volonté politique, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'oppositions qui font que le temps va peut-être passer avant que tout Paris soit limité à 30 km/h.
Message est clair. Restez avec nous sur France Bleu 107.1 à Paris. Roue Libre continue. On va ouvrir quelques pages et tourner quelques pages de l'actu du cycle.
Le journal du vélo.
Que s'est-il donc passé ? Une dépêche AFP aurait-elle envahi toutes les rédactions en même temps cette semaine ? Il faut dire que le travail de l'Institut National de Veille Sanitaire publié dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, le BEH, a fait du bruit. Tous les médias ou presque s'en sont fait l'écho. De BFM à TF1, en passant par Top Santé ou 20 minutes, une centaine d'articles se fait l'écho de l'étude Tapas conduite à Barcelone. Oui, ils ont osé. Les tapas à Barcelone, rien à voir avec la cuisine. C'est plutôt pour Transportation, Air Pollution and Physical Activities, un programme de recherche européen baptisé Tapas, donc pour évaluer l'impact global sur la santé d'une réduction des trajets en voiture au profit de modes de déplacements actifs, vélo, marche à pied, transport public. Plusieurs scénarios ont été étudiés, notamment l'impact pour la santé de l'introduction en 2007 d'un réseau municipal de vélos en libre service. Mais ce qu'on pourra retenir, c'est que c'est confirmé, quel que soit, je cite, le scénario, les bénéfices pour la santé liés au passage d'un mode de transport passif, comme l'automobile, à un mode de transport actif, sont largement supérieurs aux risque associé à une augmentation de l'inhalation de polluants atmosphériques et à une plus grande exposition aux accidents de la route. C'est ce qu'estime du moins l'une des chercheuses françaises qui travaille sur cette étude. En gros, la pratique du vélo et la marche bénéficient non seulement aux cyclistes et marcheurs, mais aussi à la population générale d'une ville, en réduisant le niveau de la pollution, souligne donc cette étude relayée en effet par l'AFP puis tous les médias. Tous à vos vélos. Demain dimanche, la réserve de biosphère de Fontainebleau et le conseil départemental organisent la 3e édition de la ronde à vélo dans le massif de Fontainebleau. 22 km de circuit au milieu d'un patrimoine naturel unique sont proposés, parmi lesquels la découverte des dunes de Béolort, les gorges d'Apremonte, Franchard, Barbizon, la forêt des Trois Pignons et beaucoup d'autres. Journée qui sera aussi l'occasion de nombreuses animations. Rendez-vous donc à partir de 9h30 demain au centre d'initiation de la Faisandriste à Fontainebleau. Pour plus d'infos, www.biosphère-fontainebleau-gatinet.fr. Il n'y a pas qu'à Paris qu'on annonce des plans vélo. Cap sur l'Australie, à Melbourne, où le maire a présenté son nouveau plan de déplacement vélo. Jusque-là, tout va bien. Surtout qu'il contient de nouveaux aménagements cyclables favorables aux cyclistes. Mais revers la médaille, le plan 2016-2020, qui vise à sécuriser les déplacements en selle, suscite de vives critiques car s'il passe par la réduction des vitesses, la création de pistes et de parkings, une partie de la réponse de la mairie fait débat. En effet, le maire, considérant que certains axes sont trop dangereux pour les vélos, prévoit tout simplement d'y réduire les aménagements pour décourager les cyclistes d'y circuler. Selon lui, impossible de créer des aménagements sécurisés pour les cyclistes sur ces axes, et plutôt que de chercher des solutions, le maire préfère déclarer ses rues en zone rouge, réduisant ainsi le nombre d'axes accueillants pour les cyclistes, quitte à aller à contre-courant de ce qui se fait d'ailleurs partout dans le monde, on en parlait à l'instant, à savoir tenter de réduire la circulation automobile en centre-ville au profit des transports en commun et des cyclistes, en abaissant notamment les vitesses. Dernier espoir, le plan doit encore être discuté et voté par le Conseil avant d'être validé. Sylvanie Godillon, chargée d'études et de recherche chez ces cités, bureau de recherche justement spécialisé sur la mobilité et l'urbanisme. Que vous inspirent ces actualités ?
Alors, le plan vélo de Melbourne est assez surprenant. C'est vrai que la tendance générale, c'est vraiment de chercher à augmenter les itinéraires cyclables partout en ville, sur les grands axes et aussi sur les axes secondaires. La plupart du temps, les aménagements sur les grands axes sont soit des pistes cyclables vraiment bien séparées des flux, soit une cohabitation avec les taxis et les bus sur des voies parallèles, ce qui pose peut-être des problèmes de sécurité. Mais le fait d'interdire complètement les grands axes au vélo, ça segmente vraiment les usages. On aurait des grands axes très circulants sur lesquels vous auriez des taxis, des voitures, des camions de livraison, des bus qui iraient à 50 km/h, et puis ailleurs... des cyclistes qui pourraient rouler librement, mais ça, voilà. Et puis ça contraint aussi les itinéraires, du coup, ouais. On est obligé de faire beaucoup de détours.
Du coup, le vélo perd son avantage.
Le vélo peut perdre son avantage. Ouais.
Abel Guggenheim.
Oui, ceci dit, c'est quand même dire clairement quelque chose qui est dit moins nettement ailleurs. Et c'est vrai que même à Paris ou dans d'autres villes, on n'interdit pas le vélo, mais il y a des endroits où on déconseille aux cyclistes d'aller, on leur impose des détours. C'est-à-dire, on leur dit passez plutôt par là, parce que là, on vous fait d'itinéraire sécurisé. Et en fait, l'avenue du Général Leclerc, sur la plupart des places, il y a tout un tas d'endroits qui sont de facto presque interdits aux cyclistes, quoi. Où les cyclistes s'aventurent.
D'où la prise de l'étoile tous les 22 septembre par les cyclistes.
Vous faites bien le lien.
À Paris, c'est vrai qu'il y a cette tendance-là de dissuader. Par exemple, sur les grands boulevards, on conseille vraiment d'aller aux cyclistes, de prendre les petites rues adjacentes. Mais il y a parallèlement d'autres aménagements. Par exemple, rue de Lafayette, vous avez la rue qui est à sens unique pour les voitures, mais par contre, les bus et les vélos peuvent remonter à double sens. Donc du coup, ça, pour les vélos, ça fait un itinéraire complet. On peut soit prendre la rue en montée, parce qu'elle monte physiquement, ou en descente. Pour moi, ce genre d'initiative est meilleur. Enfin, j'estime que dans une ville... surtout comme Paris, c'est bon de tendre vers la cohabitation de l'ensemble des usagers, même si ça pose clairement des problèmes de sécurité. Et voilà, le plan vélo de Melbourne montre bien que voilà, ce problème de sécurité, ils préfèrent ne pas s'y coller.
Merci pour vos réactions. On va revenir dans quelques instants sur la place du vélo en ville. Pour le moment, c'est l'heure de notre page autour de la culture vélo.
Roue libre, le Mac Vélo sur France Bleu 107.1.
Dimanche prochain, 18 octobre, aura lieu la deuxième édition du Paris Bike and Run. On vous promet une bonne dose de sport et de fun en plein cœur de la capitale. Pour nous en parler, Cédric Gosse, c'est le président de la Ligue Île-de-France de la Fédération Française de Triathlon, membre du bureau directeur fédéral. Bonjour Monsieur Gosse.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu 107.1. Alors qu'est-ce que le Bike and Run, pour ceux qui ne connaissent pas encore, quel est le principe ?
Alors le principe, c'est une course qui se déroule à deux avec un seul vélo et sur une distance définie, les deux concurrents s'échangent le vélo, un court à côté, un autre pédale et puis ils s'échangent librement pour parcourir cette distance.
Deux courses prévues d'ailleurs, accessibles à tous ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors en réalité, il y a même trois courses de prévues. Ouais, oui. Il y a un 9 km et un 18 km, j'allais dire, qui sont sous format compétitif, ouvert à partir de 14 ans. Et puis une autre course qui fait 9 km que nous appelons...
L'animathlon, c'est ça ?
Voilà, c'est un animathlon, plus une animation qui est ouverte à tout le monde sans nécessité du certificat médical, puisqu'on est plus sur une course véritablement de découverte, sans esprit de compétition, sans chronométrage.
Alors justement, où se court ce bike and run cette année, à Paris, dans quel état d'esprit ?
Alors il se court véritablement au centre de Paris, hein, puisque la course va partir du pont d'Iéna, avec le cœur de cette manifestation au stade Émile-Antoine, donc tout près de la Tour Eiffel, et puis un parcours qui va prendre les quais de Paris, et donc c'est à la fois original et puis assez magique de pouvoir évoluer comme ça au centre de Paris un dimanche matin.
Pensez-y demain si vous devez vous déplacer dans la capitale. État d'esprit festif, familial, puisque des animations sont même prévues tout au long du parcours, c'est ça, Cédric Gosse ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, nous avons des animations musicales qui vont être réparties à différents endroits de la course. Nous avons lancé un concours de déguisement avec les trois meilleurs selfies d'équipes déguisées qui pourront poster sur la page Facebook de l'événement et qui pourront gagner leur dossard pour l'édition 2016. Donc on est vraiment dans une course de découverte, une course famille. La Fédération française de triathlon a fortement investi ces thématiques du sport santé, du sport en famille, du sport découverte.
Et l'esprit d'équipe en tout cas. Merci beaucoup Cédric Gosse d'avoir été avec nous pour nous en parler aujourd'hui. Pour plus d'infos sur le Paris Bike and Run, rendez-vous sur le www.parisbikeandrun.fr tout simplement. À très vite sur France Bleu 107.1.
Roue libre, le Mac Vélo sur France Bleu 107.1.
Le vélo aujourd'hui, il est partout ou presque. Nous le découvrons ensemble à travers le monde, des politiques cyclables qui vont bon train pour favoriser et encourager son développement. Enfin, peut-être à Melbourne, non. Entre mobilité et urbanisme, où se trouve la place du vélo dans la ville aujourd'hui et demain ? C'est la suite du tour de piste de l'invité sur France Bleu 107.1 à Paris. Avec Sylvanie Godillon, chargée d'études et de recherche chez Cité, bureau de recherche spécialisé donc dans la mobilité et l'urbanisme. Justement, l'urbanisme, il a vraiment un rôle à jouer pour les politiques cyclables ?
Plus qu'on ne le pense, je pense. Quand vous aménagez les rues, le vélo, c'est aussi vraiment une question d'aménagement. L'aménagement des rues va vraiment avoir un impact sur le confort pour le cycliste, mais aussi le confort pour les autres usagers. Il y a tout un tas d'outils qui existent et qui restent encore à inventer pour une cohabitation qui est la plus optimale possible entre les piétons, les cyclistes et puis les autres usagers motorisés comme les automobilistes ou les usagers de deux roues motorisées.
Du coup, l'urbaniste peut tirer profit du vélo quand il imagine la ville de demain ?
Oui, je pense que en aménageant autour des piétons, des cyclistes et puis en considérant l'ensemble des usagers, on peut renouveler l'urbanisme et puis les manières d'aménager la ville et positif pour l'amélioration de la vie locale. C'est vrai qu'une un grand bénéfice de l'aménagement des zones 30, c'est vraiment la réduction, certes, de la sécurité, des accidents de la route, mais aussi l'amélioration de la vie locale.
Oui, c'est ça, c'est redonner une vie locale, recréer une dynamique locale.
Une dynamique locale, et ça, c'est vraiment extrêmement lié à l'urbanisme. Et voilà, en considérant mieux les usagers dits vulnérables, parce que c'est les plus
fragiles
par rapport
à la carrosserie.
Voilà, à la carrosserie. c'est vrai que l'urbanisme a tout à y gagner, à renouveler ses approches.
Abel Guggenheim.
Oui, vous savez, les vélos dans la ville, c'est comme les poissons dans l'eau. C'est-à-dire les fournisseurs d'eau, ils placent des poissons dans leur canalisation et si les poissons restent bien, ils sont en bonne santé, ils considèrent que leur eau est bonne. Bah, les cyclistes dans la ville, c'est pareil. Plus il y en a, mieux la ville est.
Alors justement, c'est l'une des dernières questions que je souhaitais vous poser à Sylvanie. La ville, que gagne-t-elle ou que perd-elle avec l'augmentation du nombre de cyclistes ?
Alors, je pense qu'elle, ça a été prouvé, le fait qu'il y ait plus de cyclistes et plus de piétons, ça améliore la vie locale, la qualité de vie. Comme vous l'aviez cité tout à l'heure pour l'étude Tapas, ça améliore la qualité de l'air respiré et c'est positif pour tous les autres usagers. Peut-être que ce qu'elle perd, c'est plus compliqué à aménager et parce qu'il y a des usagers en plus à considérer. Et du coup, ça introduit de la complexité.
Elle perd de l'argent, en fait.
Elle perd.
Elle en gagne de l'autre côté, non ?
Je sais pas si elle perd de l'argent spécialement, mais disons que c'est plus compliqué à aménager plutôt que de simples tuyaux pour faire passer des voitures.
C'est un véritable investissement, quoi. sur l'avenir et
voilà,
sur
un investissement sur le peut-être financier mais aussi intellectuel que voilà, il faut trouver des nouveaux outils pour aménager ces espaces.
Donc de l'argent perdu au temps présent mais investi pour l'avenir et là on en gagne.
Exactement.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Roue Libre le Mac Vélo. Plus d'infos sur le travail de Cité, rendez-vous sur 6 le chiffre t.fr. Merci Sylvanie Godillon d'avoir été avec nous. À Belguenay, on se retrouve demain.
À demain.
Autour d'un autre événement vélo qui aura lieu bientôt dans Paris.